en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de remercier votre Académie, et particulièrement Madame Del Sol, qui, elle vient de le rappeler, depuis des années, me fait l'honneur et l'amitié de s'intéresser à mes travaux. Merci de me donner l'occasion de présenter un bilan de mes recherches sur la laïcité, recherches qui ont bénéficié de nombreux apports. Faute de pouvoir les nommer tous, je citerai trois noms de maîtres disparus, le professeur Daniel Robert, à qui je dois l'essentiel de ma formation, les professeurs Jean-Marie Mayer et Émile Poula, spécialistes du catholicisme, qui ont intégré à leur œuvre l'étude de la laïcité. La laïcité est l'objet en France d'un débat passionnel et récurrent. Le laboratoire communication et politique du CNRS a publié une analyse des discours sociaux sur la laïcité. Ses chercheurs examinent les diverses thématiques, la circulation des arguments, les différences entre la controverse à la radio et à la télévision. Beaucoup de leurs propos me semblent pertinents. Cependant, ils distinguent les controverses sociales qui bénéficieraient d'un cadre de référence scientifique, comme le débat sur la bioéthique, et celle telle la laïcité où nous serions dans une pure axiologisation. Avec malignité, je relèverai que l'étude comporte quelques erreurs factuelles et une terminologie parfois imprécise. Il n'est sans doute pas si facile de congédier une démarche de connaissance. Aucun objet n'échappe a priori à l'investigation des sciences humaines et sociales, c'est-à-dire à l'investigation des sciences morales et politiques. Mon parcours universitaire est donc fondé sur la quasi-certitude qu'une approche historique et sociologique de la laïcité est possible, même si elle se situe toujours en tension avec le débat social. Cette tension, je l'ai vécue fort jeune, puisque lycéen, j'étais impliqué dans la controverse qui a abouti à la loi Debré. Or, le sujet du concours général de 1959 a porté sur le concordat napoléonien. J'ai analysé cette convention non comme un retour à la situation de l'Ancien Régime, mais comme une étape intermédiaire entre les rapports Église-État d'avant 1789 et la construction ultérieure de la laïcité. J'ai appris ensuite qu'un intérêt non scientifique est le plus souvent à l'origine d'un travail de recherche, mais que celui-ci doit devenir l'art de conjuguer ensemble empathie et prise de distance. Je me suis efforcé d'appliquer cette leçon. Ma thèse de doctorat d'État fut soutenue en 1984, au moment où, avec l'échec de la loi Savary, un débat sur la laïcité fort différent de celui d'aujourd'hui était tout autant passionnel. Dans ce travail, l'intuition du lycéen est reprise et la laïcité étudiée moins comme un principe que comme un processus. À partir d'une critique relative de l'école des annales, privilégiant un peu unilatéralement, en mon sens, le structurel et le temps long, la notion de seuil de laïcisation cherche à articuler structures et événements, moyenne voire longue durée du processus laïcisateur, est en cours de l'action. Elle prend sens dans une démarche de sociologie historique. Alors deux seuils sont distingués, un troisième sera établi ultérieurement. La toile de fond du processus de laïcisation est le fait que l'État ne s'estime plus concerné par le salut de ses citoyens. Il régule leurs intérêts sans leur imposer des dogmes. Ces seuils sont différenciés en lien avec des événements structurants et avec l'aide de trois indicateurs. Le premier est la relation de la religion avec des institutions à forte teneur symbolique, comme la médecine et l'école. Le second, la place de la religion par rapport à l'État et à la société. Le troisième, enfin, est le type de pluralisme socio-religieux légitimé par le politique. Le premier seuil de laïcisation est issu des diverses ruptures de la Révolution française et du recentrage de Napoléon Bonaparte. Il en résulte un État de droit et de fait dont tous les acteurs doivent tenir compte, quitte à tenter de l'infléchir à leur profit. Le code civil des Français sépare déjà la législation civile de normes religieuses. Et je rougis d'avoir à dire ça de M. Gentula. En conséquence, la signification du terme même de religion change. La religion n'est plus une institution qui en englobe d'autres souvent embryonnaires, telles la médecine ou l'école. La loi de 1803 sur l'exercice illégal de la médecine, promulguée avant ses progrès scientifiques et techniques, impulse la structuration d'une institution médicale indépendante. Celle-ci induit une mutation dans le rapport à la mort, qui progressivement n'est plus socialement considéré d'abord comme le passage dans l'au-delà, mais avant tout comme la fin de la vie. De même, la création de l'université impériale amorce les conflits ultérieurs par lesquels l'institution scolaire au sens large devient une institution rivale de la religion. Second critère, lors du premier seuil, la religion reste une institution publique qui assure, sous le contrôle et avec la protection officielle de l'État, la gestion de besoins religieux distingués d'autres activités sociales. Enfin, troisième critère, il existe désormais de façon légitime une pluralité d'organisations religieuses. Si le catholicisme est la religion de la grande majorité des Français, les protestantismes luthériens et réformés et progressivement le judaïsme deviennent des cultes reconnus, bénéficiant d'une égalité juridique avec le catholicisme. Ainsi, un pluralisme religieux se trouve porté par le politique. Et le protestantisme, seconde religion, constitue durant tout le siècle l'objet d'attractions et de répulsions hors de proportion avec le nombre de ses adeptes. Cependant, ce pluralisme se trouve surdéterminé par la perpétuation du conflit des deux France qui oppose la France fille aînée de l'Église à celle qui se réclame d'une modernité issue de la Révolution. La succession de régimes, dont les plus longs durent 18 ans, fait que les problèmes religieux et les problèmes politiques restent étroitement mêlés. Gardons-nous pourtant d'une optique manichéenne. Si cléricaux qui étaient dans la mémoire républicaine le règne de Charles X ou les débuts du Second Empire, ni l'un ni l'autre n'ont autorisé la tenue d'assemblées épiscopales. Durant l'ensemble du XIXe siècle, la surveillance des préfets s'est rarement démentie. Dans ce schéma, le basculement vers un second seuil s'opère avec des événements structurants, tels la loi du 28 mars 1882 laïcisant l'école laïque et celle séparant les églises et l'État le 9 décembre 1905. Pour les contemporains, ces lois constituent une part du contexte très conflictuel dans lequel elles sont promulguées. Aujourd'hui, elles paraissent des lois d'apaisement. Comment résoudre cette contradiction ? Peut-être parce que deux conflits se sont superposés. Le premier, resté vif dans les mémoires, porte sur les principes eux-mêmes. L'école laïque, la séparation. Globalement, une France les refuse, l'autre les a inscrits dans son programme. Le second conflit, qui révèle des désaccords entre républicains, porte sur le type d'école laïque et le type de séparation à réaliser. Ce dernier conflit, les deux mémoires, la catholique et la républicaine, se sont implicitement alliés pour l'occulter. Pour pouvoir construire une légende noire ou une légende dorée, chacune a rejeté dans l'impensé le fait qu'au sein même de la rupture laïque, plusieurs représentations de la laïcité se sont affrontées et que la plus libérale l'a emportée. Concernant la législation de l'école publique, cette dernière affirmation semble contredite par la lutte anticongréganiste menée par Jules Ferry avec les décrets de mars 1880. Certes, mais 18 mois plus tard, un rapport indique au ministre que dans les établissements tenus désormais par le clergé séculier, je cite, « nulle part rien n'a été changé dans les procédés et méthodes d'enseignement ». Ce rapport affirme « nous sommes joués ». Et il conclut que la majorité républicaine réclame des mesures plus sévères. Ferry refuse de les prendre. Il se déclare au contraire partisan de la liberté de l'enseignement, met en avant la possibilité d'expérimentation de l'école libre et le risque de, je cite, « religion laïque » qu'entraînerait l'instauration d'un monopole d'État. Et si aujourd'hui il semble naturel que l'école publique ait vaqué le jeudi pour faciliter la tenue du catéchisme, cette disposition suscita en son temps une sourde hostilité. Certains établissements publics firent cours le jeudi, voire même le dimanche matin, avant de subir le rappel à la loi. Il existait des conceptions divergentes de ce qu'impliquait la neutralité scolaire. Celle des anti-jacobins Jules Ferry et Ferdinand Buisson ne présentait aucun caractère d'évidence. Leur conception de la neutralité s'avéra même parfois étonnante. En témoigne la circulaire du 2 novembre 1882 demandant d'enlever les crucifix dans les salles de classe seulement au moment, je cite, impossible à préciser, où tous les hommes de bonne foi reconnaîtront que la place du crucifix est à l'église et non pas à l'école. Fin de citation. En est découlée une pratique du cas par cas qu'un historien japonais, Kiyonobu Date, a minutieusement étudiée pour le département du Nord. Dans la zone ouïère-guédiste, la laïcisation de l'école publique s'opère en quelques années. Dans l'arrondissement de Lille, où la pratique catholique est forte, le crucifix dans la salle de classe, les prières en début de journée, l'accompagnement des enfants à la messe et parfois la récitation du catéchisme sont longtemps maintenus. Voilà de forts accommodements dont le souvenir ne s'est pas perpétué. En 2005, lors du centenaire de la loi de séparation, une caricature se trouvait omniprésente dans les différentes expositions. Elle représente Émile Combes tranchant avec un glaive les liens qui unissent un prêtre et Marianne. Elle perpétue ainsi la légende que le président du Conseil du Bloc des Gauches serait l'auteur de la loi de 1905. En revanche, je n'ai jamais vu exposer une autre image de l'époque où Aristide Briand déclare au même personnage, un prêtre et Marianne, « Puisqu'il le faut, séparez-vous, mais tâchez de rester bons amis ». Cette caricature, aujourd'hui ignorée, correspond pourtant davantage à l'esprit de la loi. Esprit peu compréhensible à l'époque, car la séparation semblait représenter le couronnement de la lutte anticléricale qui, suite à l'affaire Dreyfus, s'était radicalisée. Pourtant, dès 1906, certains prirent la mesure de la mutation effectuée, tels les cardinaux verts, les membres des différentes académies, qui écrivirent respectueusement aux évêques « La loi de séparation nous permet de croire ce que nous voulons et de pratiquer ce que nous croyons ». À partir de la méthode de Max Weber, dite de l'idéal type, je différencie quatre représentations de la laïcité aux prises en 1905. La première, anti-religieuse, est soutenue par Maurice Allard. Le député du Var veut une séparation apte à diminuer, je cite, « la malfaisance de l'Église et des religions ». Son contre-projet, que Briand qualifie de « suppression de la religion par l'État », est très nettement rejeté. Par ailleurs, après que la proposition de la Commission ait supplanté le projet de loi d'Émile Combes, le Parlement repousse tous les amendements déposés par les radicaux combistes qui auraient empêché les églises d'ester en justice contre l'État, limité les manifestations extérieures de la religion ou interdit dans l'espace public le port de tenues ecclésiastiques. Ce dernier amendement visait la soutane, considérée comme un vêtement plus politique que religieux, un signe de soumission, une gêne pour penser librement, un acte de prosélytisme et d'hostilité à la République. Autoritaire, cette seconde conception de la laïcité prend la suite du gallicanisme séculaire de la monarchie. Buisson et Briand, président et rapporteur de la commission parlementaire, ont façonné ensemble la loi de 1905. On en connaît les principes essentiels énoncés dans les deux premiers articles. Liberté de conscience, libre exercice du culte, fin du concordat et du régime des cultes reconnus, abolition du budget des cultes et du subventionnement public. Mais on sous-estime encore souvent aujourd'hui le conflit sur l'article 4 qui manifeste la réponse divergente des deux hommes au problème essentiel de la dévolution des édifices religieux. Pour Buisson, l'État ne reconnaissant plus l'Église catholique en tant qu'entité officielle, mais des citoyens français catholiques, ces derniers exercent leur liberté sur la base de l'association libre et volontaire. L'organisation collective de la religion s'inscrit dans le prolongement de la liberté de conscience individuelle. c'est une laïcité séparatiste stricte. Au contraire, Briand déclare « les organisations religieuses ont des constitutions ». Et la neutralité de l'État consiste à ne rien faire qui soit une atteinte à leur libre constitution. Là, la liberté de conscience comporte une dimension collective. Les associations cultuelles doivent, je cite l'article 4, se conformer aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, cela pour obtenir la dévolution des édifices du culte. Pour les catholiques, ces associations devront être en conformité avec la hiérarchie. Cette laïcité séparatiste est plus inclusive. Quand Rome condamne la loi, par crainte d'un effet d'entraînement plus qu'à cause de son contenu, comme l'a montré l'historien Maurice Larkin à partir des archives du Vatican, l'article 4 aboutit à un paradoxe. Dans l'affaire de Torcy, le Conseil d'État donne tort à l'abbé Jouy, qui veut se conformer à la loi de 1905 et créer une association cultuelle, alors que le pape l'a interdit aux catholiques. On est loin du républicanisme classique, et ce n'est pas un hasard si la formulation de cet article 4 a été trouvée par un fils de pasteur, Francis de Pressensé, dans la législation anglo-saxonne. Effectué en 2004 le bilan d'un siècle de laïcité française, le Conseil d'État affirme que la loi de 1905 se situe dans la filiation de John Locke. Dans l'imaginaire national, elle est plutôt issue de Voltaire. Mais à l'époque, un membre de la commission parlementaire témoigne, dès les débuts des travaux de la commission, Briand fit prévaloir la formule « organiser la liberté » aux dépens de celle qui dit « écrasons l'infâme ». Reste que la logique dominante instaurée est celle d'un second seuil de laïcisation, où, si la médecine et l'école sont devenues des institutions à part entière, porteuses de certaines obligations sociales, il n'en est plus de même de la religion. Celle-ci peut fonctionner en interne comme institution. Ainsi, les tribunaux civils tiennent compte du droit canon s'ils doivent se prononcer sur un conflit interne à l'Église catholique. Mais la religion doit socialement prendre une forme analogue à l'association. Elle n'assure plus un service public. Et Émile Poulla aimait à dire qu'elle est passée d'un statut de droit public à un régime de liberté publique. Selon lui, cette sortie du gallicanisme s'est globalement avérée une réussite. Un pluralisme ouvert, qui englobe le droit de croire et celui de ne pas croire, a été instauré. La sociologie historique ne se borne pas à proposer une grille d'interprétation du passé. Elle tente de l'appliquer également aux situations d'aujourd'hui. En 1988, Henri Mandras publie un ouvrage qui devient rapidement un classique, « La seconde révolution française ». Pour ce sociologue, on assiste entre 1965 et 1984 à la fin des structures d'autorité, ce qui réaliserait les idéaux révolutionnaires de liberté et d'égalité. Ce diagnostic optimiste s'en tient en matière de laïcité à la fin du conflit des deux France. Rien n'est indiqué sur l'islam. Je propose de décaler un peu les dates charnières et de les relier à des événements structurants. De 1968, mai 68, à 1989, première affaire de voile islamique et chute du mur de Berlin, une importance identique étant accordée aux deux événements par les médias, en passant par 1975, la fin des Trente Glorieuses, la réforme Habit, la mutation de la présence musulmane en France, de 1968 à 1989 donc, il s'est effectivement produit des changements structurels qui ont modifié le rapport à l'autorité. Selon ma perspective, ces changements font émerger un troisième seuil de laïcisation qui constitue toujours le contexte actuel. Au processus laïcisateur du premier seuil, à l'établissement de la laïcité du second, succède une laïcité sécularisée en un temps où la sécularisation s'est elle-même routinisée et désenchantée. Les trois critères définissant les seuils peuvent être repris. D'abord, la médecine et l'école, institutions porteuses d'espoirs symboliques séculiers, sont atteintes comme structures d'autorité. Elles sont atteintes par le déclin de la croyance sociale en la conjonction des progrès. Les attitudes de déférence tendent à être remplacées par des stratégies dites consuméristes. Ensuite, dans ce contexte, la revendication de droits à l'intérieur de ces institutions se développe. Certains de ces droits présentent une connotation religieuse. Des identités spécifiques sont conçues comme des ressources culturelles, voire comme des recours. Enfin, les frontières historiquement construites entre le religieux et le non-religieux s'euphémisent. Des croyances mêlent divers ingrédients symboliques. Un pluralisme éclaté se développe, en lien avec un double mouvement de massification et d'individualisation. Les analyses du philosophe de la culture Raffaele Simone sur l'hypertrophie du voir peuvent être illustrées de façon saisissante par l'étude de la laïcité. Depuis 1989, les affaires liées aux tenues dites musulmanes de certaines jeunes filles et femmes ont été récurrentes. Quelques jalons peuvent être rappelés. Avis du Conseil d'État du 27 novembre 1989, qui déclare le port de signes religieux à l'école par les élèves compatible avec la laïcité s'il ne s'accompagne pas de comportements ostentatoires. Circulaire Bérou du 20 septembre 1994 qui fait glisser l'aspect ostentatoire du comportement au signe. Loi du 15 mars 2004 qui interdit le port de signes religieux ostensibles par les élèves à l'école publique. Loi du 11 octobre 2010 interdisant le port du voile intégral dans l'espace public. Affaire de jupe longue dans certains établissements scolaires depuis 2011. Circulaire Châtel du 27 mars 2012 visant les mères de famille accompagnatrices des sorties scolaires qui portent un foulard. Dans cette énumération, on est frappé par le nombre de mesures qui concernent l'institution scolaire et inversement par l'absence d'une mesure phare sur la médecine. Pourtant, lors de la commission Stasi de 2003, certains sages avaient jugé la situation à l'hôpital tout autant préoccupante qu'à l'école. Et là encore, il était question de vêtements, plus précisément du refus de certaines patientes de se dévêtir devant des médecins hommes. Mais dans la logique de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, l'institution médicale a tendanciellement choisi l'accommodement, distinguant nettement les situations d'urgence et les autres. L'enquête menée par deux sociologues, Christophe Bertossi et Dorothée Prudhomme, sur les hôpitaux de la région parisienne, montre que globalement, cette stratégie a produit un apaisement. À l'école, au contraire, le conflit perdure. La loi de 2004 a déplacé les enjeux. Les signes interdits avaient été explicitement nommés par la commission Stasi. Or, aujourd'hui, d'autres vêtements sont considérés comme un détournement de la loi. La loi ne concernait que les élèves. Or, malgré le rapport du Conseil d'État du 22 décembre 2014 indiquant qu'elles ne sont pas des collaboratrices occasionnelles du service public, les affaires concernant les accompagnatrices des sorties scolaires n'ont pas été réglées. Plébiscitée de l'extrême gauche à l'extrême droite, la laïcité constitue plus que jamais un enjeu fort entre différentes représentations. Toujours en utilisant la méthode de l'idéal type, je retrouve les quatre laïcités aux prises en 1905. Elles ont adapté leur contenu au changement de contexte. Il existe toujours une conception de la laïcité qui la perçoit avant tout comme le refus de la religion. On la trouve chez Michel Onfray, c'est aussi la posture de Charlie Hebdo. On la rencontre dans la vie courante quand certains déclarent « Je suis très laïque, je n'ai même pas été baptisé » ou d'autres affirmations du même ordre. Battue en 1905, l'optique gallicane est toujours restée forte chez beaucoup de militants laïcs. Elle a nourri longtemps la revendication du monopole de l'État sur l'éducation. Quand il fut chargé du dossier, feu le Haut Conseil à l'intégration publia un historique de la laïcité, la situant explicitement en filiation avec le gallicanisme monarchique. C'est également la conception dominante du Grand Orient de France qui, en 1989, se prononce pour l'imposition de la neutralité religieuse, entendez vestimentaire, aux usagers du service public. D'autres organisations laïques se situent dans la filiation des laïcités séparatistes. La libre-pensée combat les dogmes religieux en tant qu'organisation convictionnelle, mais polémique avec Michel Onfray qu'elle accuse de vouloir un État athée, et en son temps, polémiquer avec le Haut Conseil à l'intégration. Elle défend une interprétation stricte de la loi de 1905 et engage des actions devant les tribunaux quand elle estime que des atteintes y sont portées, par exemple en ce qui concerne des subventionnements publics. Organisation de masse regroupant plus d'un million de membres, la Ligue de l'enseignement critique également les conceptions antireligieuses et gallicanes de la laïcité et s'inscrit, dit-elle, dans la tradition de Briand et de Jaurès. Elle affirme prévenir en amont dans ses nombreuses activités d'éventuels problèmes par des règles claires, alliant le respect de principes communs et le droit à la diversité. Trois autres représentations de la laïcité sont également actives. En 1945, l'Assemblée des cardinaux et archevêques se prononce pour une laïcité qui reconnaisse l'utilité sociale de la religion et respecte la loi naturelle. Le dissensus actuel portant sur le mariage pour tous montre une continuité dans cette orientation. D'autre part, des autorités d'autres religions campent sur des positions analogues. Cette conception peut être qualifiée de laïcité ouverte. Après le discours du Latran prononcé par Nicolas Sarkozy au début de sa présidence, on a pu croire qu'il partageait une telle représentation. Cependant, l'orientation des débats sur l'identité nationale, la réaction des autorités des six grandes religions présentes en France, rédigeant une tribune commune lors du débat de l'UMP sur l'islam et la laïcité en mars 2011, montre des divergences entre les deux optiques. Je propose d'appeler laïcité identitaire la représentation qui valorise le catholicisme comme marqueur de l'identité française, qui en a une conception plus culturelle que religieuse, qui se méfie de l'islam en tant qu'orthopraxie et, entre guillemets, religion importée. Enfin, le 21 février 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le système concordat culte reconnu en Alsace-Moselle, faisant droit à une sorte de laïcité concordataire. Ses partisans pensent qu'elle constitue un modèle face à ce qu'ils qualifient de laïcité messianique. Elle montre en tout cas un paradoxe. La décision du Conseil constitutionnalise l'essentiel des deux premiers articles de la loi de 1905 et déclare légitime qu'elle ne s'applique pas à l'ensemble d'une France indivisible. Quelle représentation prédomine ? À mon avis, les laïcités gallicanes et identitaires pour une laïcité bruyante, celle des affaires politico-médiatiques. En revanche, dans la face immergée de la réalité sociale, celle du non-événement, une laïcité juridique, séparatiste et inclusive, défendue par l'Observatoire de la laïcité, me semble toujours constituer la trame principale de la laïcité française. Une anecdote significative peut préciser ce que j'entends par là. Dernièrement, un journaliste demande à la Ligue de l'enseignement « Quelles atteintes à la laïcité ont lieu dans les activités que vous organisez ?»« Aucune », répond le responsable. « Je vais vous expliquer comment nous résolvons les problèmes en amont. » Non, indiquez-moi plutôt un organisme qui rencontre des problèmes, demande alors le journaliste. Il est temps de conclure. Un classement peut toujours être critiqué, surtout quand il est présenté sous une forme très ramassée, comme je viens de le faire. Cependant, cette mise en perspective poursuit un triple objectif. D'abord, proposer de périodiser la laïcité française en trois seuils met l'accent sur son épaisseur historique, cherche à lui donner un régime d'historicité, à prendre de la distance face à ce que l'historien François Hartog appelle le présentisme, l'aplatissement du temps. Or, paradoxalement, ce présentisme se conjugue avec une vocation parfois obsédante du passé, souvent à partir de souvenirs mémoriels et non d'une démarche historienne. Ensuite, construire une typologie met l'accent sur le fait que la laïcité se décompose en plusieurs représentations, souvent en conflit et ou en tractation. Là, il s'agit de prendre de la distance avec une vision essentialiste, qu'elle stigmatise la laïcité comme ce fut parfois le cas par le passé, ou qu'elle la sacralise comme c'est souvent le cas aujourd'hui, où certains opposent une laïcité idéale à des religions réelles, comme hier, un communisme idéal se trouvait mis en contraste avec le capitalisme réel. Périodisation et typologie incitent à une réflexion sur les changements et sur les continuités. Nous ne sommes plus dans le contexte international et l'univers mental du grand dictionnaire universel ou d'Émile Combes, qui considérait l'islam comme plus compatible avec la laïcité que le catholicisme. Or, quand il prend connaissance de certains discours d'aujourd'hui, l'historien ressent une très étrange impression de déjà-lu. À plus d'un siècle d'écart, si on remplace congréganiste, jésuite, catholique par islamiste ou musulman, le reste du propos s'avère identique. Les mêmes phrases sur la République menacée par le religieux sont reprises. Histoire d'une République fragile 1905-2015, tel est le titre donné à un ouvrage collectif récent. Pourtant, ce n'est pas la religion qui a tué ni la Troisième ni la Quatrième République. Enfin, ultime considération, déconstruire de façon diachronique et synchronique la laïcité française permet d'effectuer des comparaisons avec d'autres laïcités. Cela à partir de quatre paramètres: la liberté de conscience, l'égalité devant la loi, la séparation, la neutralité. Faute de temps, je me suis abstenu de le faire, mis à part une incise concernant la loi de 1905 et John Locke. Mais le rapport brillant portait un passage consistant sur les laïcités hors de France, qui malheureusement fut enlevé quand l'Assemblée nationale a republié ce texte en 2005. Pourtant, s'il existe indéniablement des spécificités françaises quant à la laïcité n'est nullement une exception française. Elle représente plutôt un enjeu essentiel de toute démocratie. Je vous remercie.